Bonjour à tous, me revoilà donc avec de nouveaux animaux. Alors sur ce travail qui est intitulé « Le nuisible arrive en ville, représentation et opinion des Français », c'est un travail que j'ai partagé avec Vincent Comore et Sandrine Glatron. Alors, les données présentées ici s'intègrent en fait dans une étude beaucoup plus large qui a été commanditée et financée par la Fédération nationale des chasseurs et qui concernait au départ des mammifères et des oiseaux à problème en zone rurale et pouvant être régulés. Alors, la plupart sont classés dans le code de l'environnement sous les termes de susceptibles de provoquer des dégâts, mais dans cet exposé, on utilisera plutôt le mot de nuisible pour faire plus court. Alors, notre étude s'est focalisée sur quatre taxons qui appartiennent à la fois au patrimoine naturel, mais également au patrimoine culturel français, c'est-à-dire le renard roux, le sanglier, le blaireau et trois espèces de corvidés. Alors, la méthodologie repose sur des enquêtes ethnographiques qui ont été menées sur six territoires français, comme vous pouvez voir sur la carte. Et pour chaque territoire, en fait, on a enquêté aussi bien au niveau de grandes villes que dans des zones rurales. Alors, nous avons défini au préalable un échantillon de 70 personnes réparties sur le territoire national, selon deux grands types d'informateurs. Alors, tout d'abord, ceux qui n'ont pas de relation directe régulière avec la nature, et puis ceux qui ont des pratiques ou des intérêts évidents avec la nature. Alors, la catégorie la mieux représentée à la fois dans la société française et dans notre échantillon, c'est celle que j'ai appelée les jouisseurs, profiteurs, comme tous ceux, par exemple, qui pratiquent des activités récréatives de pleine nature. Et puis viennent les producteurs, comme par exemple les agriculteurs, les éducateurs, comme par exemple les enseignants des sciences de la nature. Et puis ces profils ont été complétés par des profils un peu plus rares d'un point de vue numérique qu'il a fallu aller rechercher. D'abord les prédateurs, comme bien sûr les chasseurs, les protecteurs ou gestionnaires de la nature, et enfin quelques chercheurs. Dont deux écologues, dont deux éthologues, dont les discours sont très intéressants. Notre échantillon réel comporte un petit peu plus d'hommes que de femmes, ça c'est dû à la recherche de profils particuliers, 60% d'urbains, 40% d'urbains et périurbains, pardon, et 40% du ruraux, et les 35-55 ans sont les mieux représentés. Alors, au début de chaque entretien et après avoir précisé que l'on allait focaliser sur les mammifères et oiseaux, on a demandé aux informateurs à quels animaux ils rattachaient l'idée de nuisible. Alors, la liste issue des 70 enquêtes est assez longue, mais en fait, quatre taxons sont surtout cités. Il s'agit d'abord du renard, puis du sanglier, des rongeurs et du couple ours-loup, bien qu'il s'agisse d'espèces protégées. Alors, le renard, par exemple, est cité spontanément par 43 espèces, 43% des informateurs, mais beaucoup en parlent sans forcément admettre leur nuisibilité. Et ceux qui en sont convaincus sont pour la moitié des chasseurs, et parmi ceux qui refusent ce statut, on retrouve en fait 8 militants de la cause animale ou de la protection de la nature. Alors, on s'intéresse après à la définition qui est donnée au terme de nuisible, donc toujours d'après nos informateurs à travers les représentations. Et les idées verbalisées ont été classées en trois catégories. Alors, d'abord, les nuisibles, ce sont ceux, d'après les discours, qui portent préjudice à la nature. Donc là, ce sont les items 1 et 2. Ils portent préjudice aux humains ou aux activités humaines, donc ce sont les items 3, 4 et 5 dans le tableau. Et puis enfin, les nuisibles, ce seraient des intrus dans les milieux ou dans les paysages où on ne devrait pas les trouver. Et ce qui renvoie finalement à l'idée d'invasif, que ce soit des espèces endémiques ou exotiques. Alors, si on discrimine les réponses des citadins et des ruraux, on constate que les ruraux évoquent plus souvent les dégâts ou les gênes sur les productions, alors que les citadins évoquent plus souvent les perturbations sur le confort et la quiétude, ainsi que les atteintes sur les biens et la vie sociale. Donc, ce sont des résultats qui ne sont pas tellement étonnants. Alors, à travers les discours, il est possible de déduire les milieux auxquels sont normalement rattachés les nuisibles mammifères et oiseaux. Alors, ici, j'ai emprunté le support théorique proposé par Patrice Nottegem, qui prend en considération les gradients de naturalité et de culturalité. Alors, ici, la naturalité, c'est la nature dite sauvage, caractérisée par des paysages remarquables, des espèces emblématiques, des écosystèmes fonctionnels. L'artificialité, ce sont les milieux très appauvris avec des fonctionnalités écologiques très dégradées, les centres urbains, mais aussi l'agriculture intensive. Et puis la culturalité, c'est la nature transformée par des pratiques durables qui sont censées préserver des écosystèmes fonctionnels. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage courant la campagne ou encore chez les gestionnaires la nature ordinaire. Alors, nous avons placé nos animaux, enfin ceux qui reviennent souvent dans les discours, sur ce triangle. Et tels que les informateurs les situent dans leur normalité. Alors, le loup incarne plutôt le sauvage, le renard est associé à l'image de voleur de poules et il est plutôt inféodé à la campagne. Les rongeurs sont les fléaux des villes et surtout mentionnés par les citadins. Et puis, les sangliers et blaireaux sont considérés comme liés au sauvage. Mais ils empiètent aussi sur la ruralité, puisque certains disent que ce sont aussi des animaux des champs ou des talus. Enfin, les corvidés occupent, à travers les représentations toujours, des milieux à mi-chemin entre la culturalité et l'artificialité, en particulier en périphérie des villes. Alors, comment sont perçus les taxons sur lesquels se focalise notre étude en termes d'affect ou de valeur? Et ceci indépendamment du milieu où ils vivent. Alors, nous avons repéré et compté dans les 70 discours toutes les allusions positives, négatives et neutres sur ces animaux. Alors, si on regarde le total des réponses, toute espèce confondue, les allusions positives sont nettement plus nombreuses que les allusions négatives. Et nos informateurs parlent plutôt en bien du renard et du blaireau, mais les discours sont plus mitigés en ce qui concerne les gros oiseaux noirs et le sanglier. Alors, les informateurs ont également été encouragés à s'exprimer sur les habitudes alimentaires des animaux. À ce sujet, il se dégage des discours deux façons de se représenter les choses. Alors, à gauche, ils parlent d'une alimentation considérée comme normale dans l'ordre des choses, et à droite, une alimentation dite de remplacement, plutôt anormale, et que les animaux seraient obligés d'adopter dans les milieux appauvris. Alors ici, ce sont donc les centres urbains et les agro-systèmes intensifs, dont le symbole qui revient de façon récurrente dans les discours, c'est le champ de maïs. Alors par exemple, le renard, notre voleur de poules et prédateur de rongeurs, devient le fouilleur de poubelles en ville. Le sanglier se rabat sur les champs de maïs, hein, tout comme le blaireau. Enfin, les corbeaux pillent les arbres fruitiers dans les milieux anthropisés et on reproche aux pies de s'attaquer au nid des passereaux en ville. Alors, le déchet de nos poubelles devient la nourriture de prédilection du nuisible égaré ou attiré par la ville. Alors, à travers les régimes alimentaires suggérés par les informateurs, le régime opportuniste est le point commun entre ces animaux, toujours d'après les discours. Cette notion permet aux informateurs d'expliquer leur présence en ville et le mot adaptation revient assez souvent également dans les discours. Alors, à la question, d'après vous, les animaux prolifèrent-ils? Les réponses en rouge sont plutôt négatives pour le renard et le blaireau, mais des informateurs précisent que cela ne leur paraît probable que dans les zones périurbaines ou dans les milieux appauvris. À l'inverse, la réponse oui est plus fréquente pour les corvidés. Et pour le sanglier, mais certains informateurs précisent que les corvidés ne prolifèrent qu'en ville, dans les milieux dégradés ou dans les décharges. Alors, les raisons de leur prolifération éventuelle en ville seraient liées au problème de ressources alimentaires, à la réduction des espaces naturels ou encore à la pression de chasse. Alors, certains informateurs expliquent les problèmes spécifiquement posés par les nuisibles en ville. D'abord, sur l'humain, le risque sanitaire est le plus souvent évoqué, surtout pour le renard, mais avec l'échinococcose, ainsi que la dégradation des parcs et des jardins, des espaces verts. Le bruit et les salissures sont mentionnés à propos des corbeaux. Sur la nature, les problèmes seraient liés au fait même qu'ils prolifèrent et qu'ils exercent une pression de prédation sur des espèces vulnérables comme les passereaux des villes. Alors, qu'est-ce qu'implique la nuisibilité à travers les représentations? Alors, les mots dérivants de tuer ou mort sont fréquents dans les discours. Ils évoquent un interventionnisme sur les individus par mise à mort. Et les informateurs, du coup, font facilement référence aux chasseurs et piégeurs. En revanche, les solutions non létales sont peu évoquées, donc 14% des informateurs, et l'utilisation d'un vocabulaire avec les mots éradication, extermination, etc., renvoie à l'idée de mise en péril des espèces ou encore de maltraitance animale. Et ça, c'est dans le cas général. Alors, quelques informateurs proposent spontanément des pistes pour gérer les nuisibles qui s'introduisent ou s'installent en ville, bien que les propos soient assez hésitants et que les personnes soient assez perplexes. Alors, on peut mettre en évidence trois catégories de postures. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut rien faire, ce sont les plus nombreux, et cela revient à ce qu'on appelle la libre évolution de la nature sauvage. Il y a ceux qui suggèrent d'intervenir sur les populations selon les cas, selon les espèces, avec plusieurs formules. La destruction des individus est assez rarement proposée. Le plus grand nombre parle de déplacer les populations à problème et de rares informateurs proposent la voie de l'éducation et une éducation que ce soit sur le comportement animal ou le comportement humain. Par exemple, on pourrait décourager les animaux de s'aventurer trop près des maisons ou éduquer les citadins à réduire les déchets. Alors, le cas des corbeautières est assez particulier et là, la question a été clairement posée. Est-ce qu'il faut réguler partir les corbeaux à cause de leur nuisance sonore, comme cela est le cas dans certaines communes en France? Alors, 5 informateurs disent oui. Mais ils expriment également dans leur discours qu'ils n'aiment pas ces oiseaux noirs. Et plus de la moitié de notre échantillon disent non. Cependant, ne pas tuer ne veut pas forcément dire ne pas intervenir. Ils préconisent des solutions pour faire partir ou pour réduire les populations telles que l'élagage des arbres ou l'utilisation d'ultrasons. Mais il se dégage une idée beaucoup plus globale dans certains discours. Il faudrait renaturaliser ou restaurer les milieux urbains pour retrouver des écosystèmes plus riches qui favoriseraient les espèces moins généralistes. Et des informateurs disent aussi qu'il faut revoir le système de production agricole pour éviter l'exode des populations sauvages. Alors, en conclusion, dans cette étude, la dichotomie ville-campagne a été révélée à travers les entretiens sans être l'objectif premier. Il serait assez intéressant d'approfondir la question avec des enquêtes beaucoup plus ciblées sur cette problématique urbaine. Les résultats de cette étude sont néanmoins révélateurs et significatifs. Ils se dégagent de l'ensemble de beaucoup de perplexité, surtout chez ceux qui ne sont pas directement confrontés aux dommages des animaux. Et beaucoup d'informateurs déplorent leur manque de connaissances sur ces questions, souvent le peu d'occasions, le peu d'expérience qu'ils ont pour susciter leur curiosité. Par ailleurs, le sauvage en ville est souvent perçu comme un intrus, tout comme les invasifs. L'idée première est souvent de les renvoyer vers leur ailleurs sauvage ou bien de les tolérer chez nous, mieux de focaliser sur les services rendus par ces espèces. Et le cas des doublons taxinomiques sauvages domestiques serait aussi à explorer et on peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que le renard ou le sanglier de ville ne pourrait-il pas devenir un chien ou un cochon? Enfin, si on reprend le concept triangulaire de tout à l'heure, on peut faire un transfert entre une situation qui apparaît comme normale et une situation qui défie l'ordre mental des choses. Les informateurs parlent beaucoup d'une naturalité étriquée, d'une culturalité altérée à cause de l'agriculture intensive, et cela altérerait encore davantage les pôles urbains, d'autant plus que le spectre de la poubelle comme nourriture de remplacement pour les animaux sauvages n'arrange rien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.